Radio Starbeck.
Morning edition from NPR
News.
Radio Rosanna
lo que se reproduce esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
À chaque fois, ce sont les images qui nous font réagir, pas les nombres de morts, hélas, ni les récits qui viennent pourtant vers nous. Il y a eu le petit Aylan mort sur une plage, vous vous en souvenez forcément. Il y a tout récemment donc ces images de CNN au marché aux esclaves. Du coup, nous avons été voir, nous, sur France Inter, d'Agadez jusqu'à Niamey. Vous allez entendre dans un instant le récit de ces hommes qui ont vécu l'enfer. Et on parle de l'Europe, bien sûr, on parle de nos réactions, on parle de ce qui doit se passer maintenant ou de ce qui ne se passe pas. Et ce sera avec Pierre Vermeeren. À suivre aujourd'hui également, 18h45, l'actualité en série. On parle environnement, comme tous les mardis, avec ces tout petits, ces 100 grades qui se dressent face aux multinationales polluantes. La revue de presse des correspondants nous emmène à Bruxelles et à Beyrouth. 18h55, l'édito du journal Le Monde, Christophe Ayad et l'Algérie ce soir. Le monde est vaste et parfois peu reluisant.
Fabienne Saint-Fès, un jour dans le monde.
Ça s'est passé à Jabrata. On était dans le foyer. Ils nous ont enfermés, on ne connaît pas là où on est. Il appelle ma famille d'abord, on me frappe. Ma famille entend voir que je suis en train de pleurer. Donc ils vont dire que s'ils ne déposent pas l'argent, ils vont me tuer là-bas.
Voilà un extrait d'un reportage de Géraldine Allot et Eric Audra pour France Inter, qu'on va entendre dans son intégralité dans un instant, un témoignage recueilli entre Agadez et Niamey où ils ont passé du temps. Et vous allez voir que certains font le voyage retour après des mois épouvantables en Libye. On les a suivis, ces gens, on les écoute depuis ce matin, toute la journée sur France Inter et ça vaut vraiment le coup. Bonsoir Pierre Vermeeren.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de l'Afrique et du Maghreb, vous êtes professeur à la Sorbonne. Si on a choisi toute cette journée d'être avec ces gens et de vivre cette route des migrants et de les écouter, c'est donc l'après-coup effectivement de ces images et de ce fameux reportage de CNN qui montre un marché aux esclaves en Libye. On parle désormais de l'évacuation de milliers de personnes. Pierre Vermeeren, on évacue, c'est une solution ou c'est cotter sur une jambe de bois en l'état?
Surtout, on n'évacue pas grand monde parce que, vous savez, la Libye, c'est un territoire aujourd'hui qui n'est pas accessible, qui est accessible à certaines personnes, mais qui n'est pas sécurisé, qui est disputé entre plusieurs États. Donc, si j'ai bien compris l'accord entre l'Europe et l'Afrique, pour l'instant, il y aurait des opérations de rapatriement, essentiellement à l'initiative des États africains, concernant 15 000 personnes, mais la population africaine en transit en Libye se chiffre en centaines de milliers de personnes, dont beaucoup résident dans des endroits inconnus ou inaccessibles.
Mais alors parce que j'allais vous poser la question, comment on fait en fait? Comment on entre? Parce que des camps en Libye, il y en a, ils sont éparpillés ici et là, vous le disiez, c'est une zone de non-droit, c'est une zone de chaos. De toute façon, dans la pratique, comment on fait? Comment on compte? Comment on dit? Comment ça marche?
Il n'y a pas de recette. De toute manière, il faut être très modeste parce que, si vous voulez, les images qu'on a vues il y a 15 jours maintenant ont permis de lever un peu un voile sur ce pays secret qui est devenu la Libye. Elle l'a toujours été, même s'il y a eu un moment d'ouverture vers 2011-2012. Aujourd'hui, il y a peu de fonctionnaires, peu d'agents qui s'y rendent. Il y a des armées, ce sont des zones de guerre. Il ne faut pas imaginer des camps qui sont vraiment organisés.
Bien sûr.
Il y a des camps, mais il y a aussi beaucoup de baraquements, beaucoup d'employeurs ou de marchands de sommeil qui vendent à gauche, à droite, des gens qui circulent, qui remontent de l'Afrique, qui longtemps sont partis, sont embarqués et qui sont donc répartis dans un pays qui est grand comme plusieurs fois la France. Alors même si ça se passe surtout dans le nord, parce que le but c'est la traversée de la Méditerranée, c'est aussi parfois l'emploi sur place, mais rapidement les migrants se rendent compte que ce n'est pas possible. Faut rappeler qu'à l'époque de Kadhafi, des centaines de milliers, voire des millions d'Africains ont travaillé, notamment dans le pétrole libyen, mais ce temps-là est terminé. Et donc aujourd'hui, effectivement, un certain nombre d'entre eux sont devenus l'objet ils sont tous en réalité devenus l'objet de commerce, mais certains ont été jusqu'à être vendus comme esclaves pour travailler, enfin esclaves ou travailleurs mal payés ou pas rémunérés, voire menacés ou battus. C'est une histoire ancienne, maintenant ça fait plusieurs années que ça dure.
Alors justement, c'est ce que j'allais vous demander, parce qu'effectivement on s'émeut quand on voit une photo, on s'émeut quand on voit ce reportage, on a raison de s'émouvoir par ailleurs, et d'essayer de faire
évidemment en
sorte que les choses avancent. Mais tiens, je vous lis, Pierre Vermeeren, on est en avril, c'est un papier que vous aviez écrit à l'époque pour Le Figaro, et vous dites « Même l'ONU déplore que les migrants africains soient transformés en esclaves par des passeurs libyens ». En gros, tant qu'on ne l'a pas vu, tant qu'une caméra ne nous l'a pas montré, on fait comme si ça n'existait pas, parce que la preuve en est. On sait de toute façon que ces situations existent depuis des mois et des mois.
On sait que des femmes et des enfants, notamment, ont été jetés des bateaux à la mer par dizaines, voire par centaines. On sait que les femmes femmes disparaissent quand elles arrivent en Italie dans les camps, ou les enfants aussi d'ailleurs. Donc il y a du trafic d'êtres humains, y compris sur le continent européen, probablement pour de l'esclavage, ou moderne comme on dit, mais en fait c'est quand même de l'esclavage. Donc oui, on sait qu'il y a une criminalité considérable qui est occasionnée par cette grande migration à laquelle on assiste depuis 2011 ou 2012. Et en même temps, que faire ? Il y a une impuissance incroyable. On a parlé longtemps de l'idée de créer des spots, c'est-à-dire les fameux camps de transit gérés par les organisations internationales ou par l'ONU. Mais en réalité, la Libye est un territoire sur lequel on ne peut pas vraiment envoyer du personnel de manière durable, puisqu'il n'y a pas de sécurisation. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait envoyer l'armée, mais personne ne veut y aller. Donc, et c'est peut-être pas la solution non plus, évidemment. Donc tout cela est très compliqué. Mais c'est vrai que l'initiative l'avantage, entre guillemets, de ces événements récents, c'est qu'il y a une conscientisation qui est faite au niveau des Africains et des États africains. Parce qu'ils ont été très liés longtemps à la Libye à l'époque de Kadhafi. Les liens ont été totalement rompus. C'est le moment de les reprendre sous la bannière de l'Union africaine. Mais en même temps, l'Europe n'est pas loin, l'ONU non plus. Donc tout ça est en train d'être inventé toujours dans la pagaille et toujours à chaud, alors que la situation, effectivement, elle n'est pas vraiment à chaud, elle est ancienne.
Quand certains Africains, qui ont été émus aussi évidemment par cette situation, disent mais ce sont aussi aux Africains de gérer les problèmes africains, c'est-à-dire de voir avec leurs ressortissants comment travailler, comment les faire revenir. Sincèrement, est-ce que ça a du sens ? Moi, je me mets à la place d'un type qui a marché à pied pendant très longtemps pour gagner un peu plus d'argent, y compris dans des situations difficiles en Europe. On va le voir tout à l'heure avec le reportage, pour lui faire faire marche arrière, pour le faire rentrer. C'est très compliqué, on comprend bien pourquoi.
Oui, et puis c'est surtout qu'il a investi beaucoup d'argent pour ça. Il a investi souvent le revenu par habitant de nombreux habitants, c'est-à-dire qu'il s'est endetté, sa famille est endettée, et en plus il y a un sentiment de honte, c'est-à-dire l'incapacité d'avoir réussi finalement son périple. Bon, parce que souvent quand les gens partent, ça crée un espoir dans un groupe. Les sommes qui sont déboursées, ce sont des milliers de dollars, alors que le niveau de vie dans un certain pays, tout à l'heure vous parliez du Niger, je crois que le niveau de vie est de 500 dollars par an et par habitant. Donc on imagine ce que c'est quelqu'un qui débourse 5 ou 10 000 euros pour traverser et qui revient sans rien. C'est une détresse, mais en même temps il faut à un moment donné que les États africains la prennent en charge, parce que pour l'instant finalement elle est laissée sur les bras, sur les épaules de ces pauvres types, de ces familles. Ça doit devenir une affaire publique et continentale.
Mais vous dites que ces États africains ont les moyens de le faire réellement, pas seulement les moyens en hommes et en logistique, mais de toute façon de retenir ces gens.
En tout état de cause, ils n'ont pas les moyens de les faire revenir, de faire des points rien. On a vu qu'un certain nombre de pays, par exemple le Maroc, a prêté main forte. Il y en a d'autres, bien sûr. Il y a des pays très riches dans la région, notamment du côté du Golfe. Est-ce qu'ils ont pour autant envie de s'investir là-dedans ? Bon, il y a les questions des moyens. Il y a la question de la sécurité. Quant à la question de l'emploi en Afrique, elle reste insoluble. Vous avez à peu près 200 millions de jeunes qui ont entre 15 ans et 25 ans ou 24 ans. C'est évident qu'un certain nombre ont de l'emploi, mais que l'énorme majorité est en sous-emploi au chômage. Donc, mais ça, ce n'est qu'une des conséquences de cette situation économique complexe.
Avec de l'argent qui a été débloqué quand même là récemment, et c'est ce qu'on disait à Abidjan, pour les projets de développement. Alors évidemment, on se dit que le temps que tout ça prenne effet, il va se passer beaucoup de temps. On se dit alors, aussi que c'est peut-être par là qu'il fallait
apparemment
commencer.
Apparemment, je lisais qu'au Niger, le pays de transit et sur la route du Nord, c'est un pays dans lequel l'activité de, alors on n'ose pas dire de traite, mais même s'il y a certains égards ça ressemble, mais c'est du commerce, ou en tout cas c'est du trafic d'êtres humains, ça a occupé des dizaines de milliers de jeunes depuis plusieurs années, et que là, avec les activités qui ont été créées sur place, cette main d'œuvre trouve d'autres activités. Mais le problème, c'est que les migrants, ils viennent souvent de très loin, ils viennent de l'ouest de l'Afrique, voire de l'Afrique centrale, et du coup les pays de transit, vous voyez, il faut traiter l'arrivée, il faut traiter la Libye, il faut traiter la Méditerranée, il faut traiter les pays de transit, et il faut traiter les pays de départ. Donc, les problèmes sont immenses.
Avec une Europe que vous diriez quoi ? Paralysée par ces histoires à répétition ? Est-ce qu'elle est paralysée ? Est-ce qu'elle est aussi complice ?
Toutes ces scènes se déroulent en Afrique. Moi, je vous dis, il y a des complicités. Quand des gens débarquent en Europe et que les femmes et les enfants disparaissent, là, il y a complicité. Parce que ça se passe sur le sol européen et il n'y a pas d'enquête. On sait aussi, encore une fois, que des femmes ont été jetées des bateaux. Il n'y a pas eu d'enquête à ma connaissance. Peut-être je me trompe. Donc là, il y a une responsabilité extrêmement lourde. Il faudrait qu'il y ait des poursuites judiciaires. Après, pour ce qui est de l'accueil des migrants, effectivement... Pour l'instant, on était parti sur la crise syrienne. Mm-hmm. On voit que la majorité des migrants qui arrivaient pendant longtemps venaient du Moyen-Orient, voire du Bangladesh et d'Afghanistan. Actuellement, il y a une réorientation des flux depuis que ce n'est plus la Turquie qui est la source émettrice, mais que c'est la Libye. Il y a une réorientation très massive, minoritairement du Maghreb et du Moyen-Orient, et surtout qui arrive d'Afrique subsaharienne. Mais quel est l'avenir? L'Europe, effectivement, vu le résultat de la crise migratoire, des deux crises migratoires qui ont déjà eu lieu, elle est plutôt effectivement paralysée. Et surtout, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'unité.
Il n'y a pas d'unité entre les pays européens. Et là, effectivement, un semblant au sommet d'Abidjan. Et on verra dans un instant ce que ça donne. On parlait du Niger à l'instant. Vous parliez de ce pays de transit. Je voudrais qu'on y retrouve Géraldine. Allô, bonsoir Géraldine.
Bonsoir.
Vous avez passé du temps, Géraldine, entre Agadez et Niamey, où vous êtes rentrée là. Et vous allez rencontrer, vous allez nous expliquer de quoi on parle exactement. Ceux qui ont décidé de rentrer, ça veut dire que avant même cette fameuse évacuation d'urgence, dont on ne sait pas très bien dans quelles conditions elle va se passer et qui a été décidée, certains avaient déjà décidé de faire marche arrière.
Oui, ça se passe à Agadez. Là-bas, il y a un centre de transit pour les migrants qui reviennent de Libye. Il y a 5 centres de ce type au total au Niger. Ils sont gérés par l'OIM, l'Organisation Internationale des Migrations, et financés par l'Union Européenne. Et quand on a visité celui d'Agadez la semaine dernière, il y avait environ 250 migrants, mais le chiffre varie chaque semaine. Parfois, il y a 900 migrants qui y sont hébergés. Et ce sont des hommes, essentiellement, beaucoup de Guinéens, d'Ivoiriens, de Sénégalais, qui ont fui la Libye et ses atrocités. En général, ils sont passés par la frontière ouest, par l'Algérie, avant d'être récupérés en Algérie par les équipes de l'OIM et acheminés en bus à Agadez, où on les a rencontrés.
Eh bien, c'est là qu'on écoute votre reportage, Géraldine, et on se retrouve juste après.
En cette fin de matinée, dans la cour du centre de transit, un groupe de migrants joue au football pour tuer le temps. On les appelle les anciens parce qu'ils sont arrivés ici il y a plusieurs semaines déjà. À l'intérieur, les nouveaux venus, ils ont fui la Libye et ont été rapatriés au Niger il y a tout juste 2 jours. Des blocs de souffrance dont les mots sortent difficilement. Mamad Sadou Diallo est guinéen, il a 27 ans.
Maintenant, je voulais juste rentrer dans mon pays.
Vous en avez trop vu?
Trop. Trop vu même. Ils ont tué beaucoup de mes amis là-bas. Devant moi, beaucoup.
Je réponds au nom de Lincoln Gainga. Je suis le gestionnaire du centre de transit de l'OIM à Agadez. Quand on remarque qu'un migrant arrive dans ce centre, il peut même pas parler, il peut même pas approcher les gens, mais après 2-3 jours, il commence à jouer au football, il parle à tout le monde, il peut sortir, et il y a la confiance qui est là. Donc voilà, il s'est dit oui, ben, il y a encore de l'avenir, il y a la possibilité.
L'avenir, Yaya, un autre Guinéen, n'y pense pas encore. Pour le moment, il retrace auprès des employés de l'OIM ses 2 ans et 8 mois passés en Libye, qu'il décrit comme un enfer.
On m'a vendu à 700 dinars libyens. Le cocktail qui a fait ça aussi, c'est un Gambien. Il s'appelle Lamine, mais tout le monde l'appelle LLLL.
Yaya raconte qu'il a été vendu 700 dinars par son coxeur, une sorte d'intermédiaire entre les migrants et les réseaux de passeurs.
On vous a vendu à qui ?
Nous a vendu les gens qu'on appelle Libya, Asma Boys, ce sont des bandits.
Les Asma Boys de Tripoli ont une sinistre réputation parmi les migrants. Ce sont des jeunes, souvent armés jusqu'aux dents. Ils ont des kalachnikovs et même des grenades. Yaya sera, dit-il, leur esclave pendant plusieurs mois. Il est finalement libéré après avoir payé 1500 dinars que lui a fait parvenir sa famille.
Comme esclave, presque 11 mois, j'ai fait ça là-bas.
Les enlèvements et le racket de migrants semblent être très répandus en Libye. C'est le récit que fait Mamadou Baleyal, un chauffeur de taxi guinéen, qui vient tout juste d'être rapatrié au Niger par l'OIM.
Ça s'est passé à Jabrata. On était dans le foyer. Ils nous ont enfermés, on ne connaît pas là où on est. Il appelle ma famille d'abord, on me frappe. Ma famille entend voir que je suis en train de pleurer. Donc ils vont dire que s'ils ne déposent pas l'argent, ils vont me tuer là-bas.
Et donc votre famille a fait un mandat pour payer votre libération ?
Oui. Donc ma famille, je ne sais pas la manière qu'ils ont eu cet argent-là jusqu'à ce qu'on m'a fait libérer.
Combien ?
Donc 500 euros.
Vous avez quitté la Guinée pour, dans l'espoir d'une vie meilleure. Vous avez connu la Libye. Vous êtes enfui. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ?
Moi, ce que je voulais faire maintenant, je me retourne chez moi. parce que je ne peux pas aller risquer ma vie encore. J'ai vu beaucoup de choses, même en marchant, plein désert, tu peux voir, tu marches avec quelqu'un là-bas, il tombe, il ne boit pas l'eau, il n'y a pas de l'eau. Il voulait ça, plein désert. Il y a les gens même qui vont uriner, ils vont boire ça. Donc c'est difficile. Maintenant, ce que j'ai vu là, ce n'est pas quelqu'un qui m'a expliqué. J'ai vu avec ma propre vie. Donc maintenant, le clan de sel là, c'est bon, je vais rentrer chez moi. C'est ça, je vais rentrer chez moi.
Le centre de transit d'Agadez est l'endroit où tous ces migrants enterrent leurs rêves d'Europe. L'OIM, grâce à des fonds de l'Union européenne, finance leur retour au pays, les aide aussi à développer un projet personnel loin de l'Europe, loin de la Libye, chez eux.
Maintenant j'ai vu et je veux rentrer chez moi, Géraldine, juste en un mot, est-ce que vous avez eu le sentiment, encore une fois, on est avant l'organisation des retours, est-ce que c'est vraiment un mouvement de fond auquel vous avez assisté ou finalement, on en parlait avec Pierre Vermeeren à l'instant, est-ce que ce sont des petits cas parce qu'effectivement rentrer chez soi, c'est dire j'ai échoué, j'y suis pas allé et du coup je peux pas vous ramener de l'argent.
Alors je vais vous donner un chiffre très récent que nous a communiqué hier l'un des responsables de l'OIM au Niger. Au point de contrôle de Séguédine, dans le nord du Niger, pas très loin de la frontière libyenne, l'OIM a compté l'an dernier 290 000 migrants sortants, c'est-à-dire qui se dirigeaient vers la Libye, et 88 000 migrants rentrants, c'est-à-dire qui revenaient de Libye. Ces chiffres, en 2017, ils se sont inversés. Il y a eu pour l'instant, depuis le début de l'année, 31 000 migrants qui se dirigeaient vers la Libye et 68 000 qui en revenaient. Mais attention, il s'agit de chiffres à un seul point de contrôle. Et depuis un an, le Niger arrête de plus en plus de passeurs pour lutter contre l'immigration illégale. Donc les migrants empruntent d'autres routes dans le désert, des routes secondaires, moins surveillées et donc ne sont pas comptabilisées. Donc voilà, clairement, le mouvement retour au pays, ou en tout cas volonté de retour au pays, il existe, mais il reste encore inférieur au nombre de migrants qui partent. C'est l'avis de toutes les ONG et des autorités nigériennes.
Géraldine Allo, merci mille fois pour ce reportage. Merci à Eric Audra aussi qui vous a accompagné pendant toute cette semaine, et vos reportages, je le dis d'ores et déjà, sont à retrouver en longueur sur franceinter.fr. Pierre Vermeeren, quand vous entendez ça, effectivement, vous le disiez, les chiffres s'inversent, mais attention parce que les points de passage aussi sont en train d'être bouleversés.
Oui, les routes, savez, on va dire. De toute manière, le Sahara, c'est tellement immense que c'est la taille de l'Europe, hein, c'est plus grand que l'Europe, le Sahara. Donc, vous voyez, les points de passage, c'est pas un problème. C'est vrai que les pays doivent travailler ensemble. Il y a la bande sahélienne, aujourd'hui il y avait une espèce de point de convergence qui s'opérait de tout le Sahel et de l'Afrique de l'Ouest vers la Libye. L'enfer que rapportent ces dizaines de milliers d'hommes, je pense, va tarir le flux, mais on peut imaginer que d'ores et déjà un certain nombre de personnes réfléchissent à d'autres voies et à d'autres manières de procéder. En tout cas, il faut que cet enfer s'arrête, mais derrière il y a la crise libyenne et il y a le non-contrôle du Sahara qui ne pourra être opéré que quand le contrôle du Sahara et du territoire libyen, c'est la grande affaire de l'avenir. Parce que tant qu'il n'y a pas d'État, tant que le territoire est livré à des mafias, de toute manière, les trafics vont continuer de plus belle. Et ils concernent, on le sait, la drogue, la prostitution et donc maintenant les esclaves et les migrants.
Merci beaucoup Pierre Vermeeren, merci de ces éclaircissements, merci de votre passage dans Un jour dans le monde, spécialiste de l'Afrique et du Maghreb.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Alors, le téléphone sonne, ce sera après, chaque chose en son temps. En attendant, la suite d'Un jour dans le monde, c'est Florence Paracuelos qui est là dans une minute. Sandy Dauphin, l'actualité en série, l'actualité sur la planète qui n'est pas toujours propre. Vous allez revenir sur ce Péruvien culotté qui attaque une multinationale allemande.
Oui, et plus globalement, on parlera d'une nouvelle étude d'une ONG scientifique qui quantifie la responsabilité des gros pollueurs dans le réchauffement climatique avec une idée derrière la tête, leur réclamer des comptes.
Allez, on verra ça ensemble tout à l'heure. La revue de presse sera à Beyrouth et Bruxelles. Tout de suite, bonne soirée sur Inter. Restez avec nous. Voici Ozeki. Zeki sur France Inter, Sun is Rising. Voici Florence Paracuelos. Power Hit Radio. Magic FM.
Terra de Vatula. Desservi Prispo. 60 Minutes.
Laurent, spécialiste des pleins et des déliés de l'actualité internationale et de ce qui traîne entre les lignes, ce soir vous nous emmenez d'abord dans l'Utah avec Donald Trump.
L'Utah, vaste état de l'Ouest américain au décor sublime que vous connaissez sans doute, Fabienne, vous qui avez écumé les États-Unis de long en large et en travers. Rio Grande, la prisonnière du désert, il était une fois dans l'Ouest. Voilà quelques-uns des films qui ont été tournés en Utah. Mais le décor va peut-être changer. Il était une fois Donald Trump, et c'est l'histoire du jour, bien décidé à revoir le statut d'un certain nombre de monuments nationaux, des zones protégées par décret présidentiel. Il y en a 129 aux États-Unis. L'un des derniers a été sanctuarisé par Barack Obama juste avant de partir. C'est le parc de Bear Ears dans l'Utah, territoire des Indiens Pueblo au Canyon Rouge. Bear Ears comme les oreilles de l'ours. Mm-hmm. Trump a décidé hier de réduire ce parc de 85%, ce qui veut dire qu'il devient exploitable pour des activités minières ou pétrolières, comme le demandaient les élus républicains du CRU. Trump leur a donc donné raison. Certains pensent que les ressources naturelles de l'Utah doivent être contrôlées par une poignée de bureaucrates très loin d'ici, à Washington. Eh bien, devinez quoi ? Ils ont tort. Et Trump de continuer sur le credo populiste du style « personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour votre terre ». Il a dans la foulée amputé de moitié un second parc de l'Utah, déclenchant la colère des nations indiennes et des écolos. Ils étaient 3000 à manifester hier à Salt Lake City. Voilà. Manifestation classique, c'est à nous, la terre est à nous, etc. Dix organisations classiques. Ce ne sont pas que des Indiens, c'est aussi beaucoup d'écolos, essentiellement des écolos à l'image en réalité. 10 organisations de protection de l'environnement ont porté plainte. Tout aussi inquiets sont les archéologues et les paléontologues. Il y aurait des milliers de sites archéologiques dans ces deux régions de la rupestre et des restes de 21 espèces de dinosaures. Seul élément rassurant pour l'instant, aucune société minière n'a encore manifesté d'intérêt pour ces coins-là.
Comme vous dites, pour l'instant, les caps vers le sud du continent, nous sommes au Honduras où la situation est électrique depuis l'élection présidentielle. C'était il y a 10 jours.
Un broglio électoral et cocktail explosif. Les résultats du scrutin n'ont pas été proclamés officiellement. Ils donnent le président sortant de droite gagnant. C'est Juan Orlando Hernandez qui n'aurait pas dû se représenter. La constitution du Honduras interdit 2 mandats successifs. Vous ajoutez à cela un score très serré avec son opposant de gauche, Salvador Nasralla, et des accusations de fraude électorale sur fond de corruption et de misère endémique, vous obtenez la situation actuelle. Des manifestations violentes dans les rues de la capitale Tegucigalpa, un mort la semaine dernière, l'état d'urgence et le couvre-feu décrété. Et la police qui se rebelle contre le pouvoir. Des centaines de policiers sont descendus dans les rues hier, à pied, en voiture, à moto, toute sirène hurlante acclamée par les manifestants. Police, amis, le peuple est avec toi. Des policiers en grève, ils ne veulent plus réprimer les manifestants, ils ne veulent pas faire appliquer l'état d'urgence. Que va-t-il se passer maintenant au Honduras, l'un des pays les plus pauvres et les plus violents du monde ? L'opposition et l'organisation des États américains demandent le recomptage d'un tiers des bulletins de vote. Et des milliers de manifestants sont redescendus dans les rues aujourd'hui, malgré l'état d'urgence, au cri de « dehors le dictateur ».
Allez, c'est à suivre. Donc Florence, du Mexique jusqu'à la Pologne, le mystère de la table blessée de Frida Kahlo.
Je n'ai jamais peint mes rêves.
Nunca pinté mis sueños.
J'ai peint ma réalité propre.
Pinté mi propia realidad.
Je n'ai jamais peint.
Extrait d'une série de France Culture sur l'artiste. Sa réalité propre était sombre, comme l'est la plus grande toile qu'elle ait jamais peinte. La table blessée, derrière laquelle elle est assise. Curieuse scène, Fabienne, pleine de sang et de squelettes. Ce tableau, vous ne le verrez pas à l'exposition consacrée à l'artiste à Poznan, en Pologne, en ce moment, ni là-bas, ni ailleurs, parce qu'il a disparu. 2,44 m par 1,20 m. L'œuvre est peinte en 1940. Quelques années plus tard, Frida Kahlo va l'offrir à l'URSS par amour du communisme. Et la dernière fois qu'on l'a vue, cette toile, c'était lors de l'exposition d'art mexicain à Varsovie en 1955. Depuis, plus rien. La commissaire de l'exposition de Poznan aujourd'hui se demande si elle n'a pas brûlé dans un poêle pendant un de ces redoutables hivers polonais. D'autant que le tableau avait été très durement critiqué à l'époque en 1955. On avait dit qu'il valait même pas l'argent de son transport. Alors peut-être que la Russie ne l'a jamais récupéré. À sa place, à Poznan, les visiteurs peuvent voir un fac-similé en noir et blanc avec une affichette du genre « Recherche ce tableau désespérément ». Il vaudrait dans les 20 millions de dollars aujourd'hui.
Eh oui, c'est pas pareil. Florence Paracuelos, merci beaucoup. Vous revenez demain. On va parler environnement tout de suite.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Synthèse.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
L'actualité en série le mardi dans Un jour dans le monde, c'est le pire et le meilleur de l'actualité environnement. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
Sandy, on a eu l'occasion de parler ici, c'était d'ailleurs avec Florence Paracuelos, de ce Péruvien, cet homme culotté qui n'hésite pas à attaquer une grosse entreprise, une énorme entreprise parce que elle dérègle son climat et contribue plus largement au réchauffement climatique. Cet agriculteur vient de gagner une première manche judiciaire contre le géant allemand RWE. Et ce qui nous intrigue surtout aujourd'hui, c'est que ce genre de procès pourrait devenir courant.
Oui, ce qui frappe dans ce dossier, c'est que ce n'est pas un riverain qui porte plainte contre l'usine polluante d'à côté de chez lui. RWE n'a aucune centrale au Pérou. L'agriculteur péruvien Luciano Luya attaque l'énergéticien au motif, vous le disiez, que c'est l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre du monde. Le plaignant, par ailleurs guide de haute montagne, accuse le groupe allemand d'être responsable en particulier de la fonte du glacier qui menace d'engloutir sa ville, Huaraz, dans la cordillère des Andes. Il veut toucher RWE au portefeuille. Il lui demande de financer une partie des travaux de sécurisation de sa ville contre les inondations et même de rembourser l'argent qu'il a déboursé lui-même pour protéger sa maison.
Et ce que vous nous dites, en tout cas Sandy, c'est que les grandes multinationales ont du souci à se faire.
Oui, car l'agriculteur péruvien a remporté une première manche symbolique. La justice allemande estime en appel que sa plainte est recevable. Alors ça ne veut pas dire qu'elle lui donne raison, mais il va pouvoir défendre son cas, tenter de convaincre qu'il y a bien un lien de cause à effet entre les émissions de RWE et la fonte des glaces dans la cordillère des Andes. C'est d'ailleurs devenu un nouvel angle d'attaque des ONG. Quantifier la responsabilité des gros pollueurs. Ainsi, l'association américaine, l'Union des scientifiques concernés, l'UCS, vient de publier une étude dans laquelle elle épingle de grands groupes comme les pétroliers ExxonMobil ou encore le groupe français Total. Tom Frumhoff, co-auteur de cette étude.
Nous pouvons quantifier ceci dans un modèle global de changement climatique. Nous montrons que près de la moitié de la hausse mondiale des températures et un tiers de l'augmentation du niveau de la mer déjà constatée sont imputables aux émissions de CO2 des 90 plus grandes entreprises mondiales.
Donc ça veut dire de quoi servir de pièce à conviction, en fait, devant les tribunaux.
C'est en tout cas clairement l'objectif affiché par cette ONG scientifique au nom d'un principe politique défendu notamment par les pays du Sud, la justice climatique.
Nos données scientifiques doivent permettre aux jurés, aux juges, aux citoyens de bien comprendre les dégâts déjà causés par des entreprises individuelles. Nous posons la question, pourquoi les citoyens, les gouvernements, les contribuables seraient les seuls à en payer le coût? Pourquoi est-ce que les entreprises n'endosseraient-elles pas une part de responsabilité?
Alors le groupe allemand RWE dit qu'il a bien l'intention de se battre pour ne pas devenir un bouc émissaire du réchauffement climatique. C'est désormais à la justice allemande de trancher. Le dossier dépasse bien sûr le simple cas de cet agriculteur péruvien. D'après l'ONG allemande qu'il soutient, German Watch, des procédures judiciaires similaires seraient en cours dans une cinquantaine d'États dans le monde.
Merci beaucoup, Sandy Dauphin, dans Un jour dans le monde.
France Inter, Un jour dans le monde.
Allez, les correspondants de France Inter lisent la presse pour vous. Et ce soir, on commence à nos portes. Bonsoir Bruxelles. Bonsoir Pierre Benazé.
Bonsoir Fabienne.
Alors Pierre, on s'occupe aujourd'hui d'avions de combat chez vous, de cure pour le cancer ou de Saint-Nicolas, puisque c'est demain. Mais le Brexit quand même reste au centre des préoccupations. La rencontre hier à Bruxelles avec Jean-Claude Juncker et Theresa May reste évidemment à la une des quotidiens et des sites.
Effectivement, le Standard souligne que le plus grave problème, c'est désormais la frontière irlandaise. Le Standard choisit le célèbre nœud irlandais qu'il décrit désormais comme un nœud gordien. Le Morgen, lui, choisit pour sa part la métaphore textile, Theresa May empêtrée dans les chevaux irlandais. Le quotidien flamand se demande si la majorité de la première ministre à la Chambre des communes va tenir. C'est le DUP, le petit parti unioniste d'Ulster, qui fournit la courte majorité d'un siège de Theresa May aux communes. Et c'est lui qui a fait capoter les négociations d'hier, souligne la Libre Belgique. Ces négociations négociations sans queue ni tête du Brexit prouvent en tout cas, selon le Standard, que l'Europe va avoir du mal à négocier avec un royaume désuni.
Alors justement, tiens, en parlant de royaume, changeons de royaume, repassons la Manche, revenons en Belgique où le feuilleton de l'avenir de l'armée de l'air n'en finit pas de rebondir.
Oui, c'est une tribune dans Le Soir de la ministre française des Armées, Florence Parly, qui fait réagir ici. Selon le quotidien économique de Tate, la ministre française mène une charme offensive. Je ne pense pas nécessaire de vous le traduire, mais non, cette offensive est surtout militaire, oui, puisqu'il s'agit de remplacer les F-16 de l'armée de l'air belge. La tribune de Florence Parly relance la candidature du Rafale. Et selon Le Soir, les avantages économiques liés à cette candidature pourraient raviver l'intérêt de la Belgique, qui semblait pencher jusqu'ici pour un avion américain.
Tout autre chose, Pierre, la Belgique fait grand cas ces jours-ci d'une découverte médicale qui pourrait changer beaucoup dans la lutte contre le cancer.
Oui, c'est une molécule qui provient d'une liane, Oncaria gambir, qui pousse en Indonésie, révèle ce matin l'Écho, l'autre quotidien économique, qui revient sur la découverte de chercheurs de l'UCL, l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, une molécule qui potentiellement pourrait empêcher un cancer de se généraliser. La catéchine, c'est le nom de cette molécule qui doit encore subir des essais cliniques et qui pourrait empêcher la dissémination des métastases, souligne l'Écho.
Et puis on termine avec une mauvaise nouvelle à votre échelle, hein, dans la presse belge aujourd'hui.
Non, même une très mauvaise nouvelle, tellement grave qu'elle est en une du Nieuwsblad. Le prix de la bière va augmenter. Une information reprise par le quotidien bruxellois La Capitale, qui va même jusqu'à parler d'une très forte hausse, 3% d'un coup, avec beaucoup de points d'exclamation. L'atmosphère, c'est tout de même la fête, malgré tout. En tout cas, pour les petits Belges, vous l'avez dit, demain, c'est Saint-Nicolas, jour des cadeaux. Et cette année, les enfants seront gâtés, puisque, selon le quotidien La Dernière Heure, les courses de jouets pour la Saint-Nicolas ont représenté beaucoup plus que le Black Friday. Et le mot de la fin revient au Standard, où notre consoeur vers le Vandenbosch, estime que ce n'est pas grave de faire croire aux enfants que Saint-Nicolas existe. Le vrai problème vient plus tard quand on réalise que le prince charmant n'existe pas.
Ah bah, qu'il dites-vous ? Allez, joyeux pain d'épices. Merci beaucoup, Pierre Benazé. Bonsoir Beyrouth et bonsoir Omar Waman.
Bonsoir Fabienne.
À la une de la presse chez vous, à Beyrouth ce mardi, toujours la mort de l'ancien président yéménite Ali Abdallah Saleh.
Oui, les quotidiens libanais consacrent une large couverture à ce tournant dans la guerre au Yémen. El Nahar titre « La dernière danse d'Ali Abdallah Saleh ». Le journal arabophone croit connaître les circonstances de la mort de celui qui fut durant 33 ans président du Yémen avant d'être chassé du pouvoir et de s'allier aux rebelles Houthis alliés de l'Iran contre l'Arabie Saoudite. Ali Abdallah Saleh a signé son arrêt de mort samedi dernier lorsqu'il a annoncé vouloir renouer avec Riyad contre les rebelles Houthis, donc pour permettre la levée du blocus, un changement d'alliance à l'origine de très violents combats. Ali Abdallah Saleh, encerclé, prend la fuite dans un véhicule blindé, un 4x4, accompagné de l'un de ses fils et deux de ses collaborateurs, avant d'être la cible de tirs nourris de ses ex-alliés alors qu'il quittait la capitale Sanaa.
Et une mort, en tout cas, Omar, c'est ce qu'on lit chez vous, qui rappelle celle de Kadhafi, exécuté en 2011, c'était à Sirte, dans sa ville natale.
Oui, de nombreux quotidiens libanais font cette comparaison. Muammar Kadhafi, Abdullah Saleh, même destin pour l'Orient le jour. Les deux hommes sont d'abord apparus sur les réseaux sociaux, le visage figé aux mains de leur bourreau et au cri d'Allahu Akbar, Dieu est grand. On apprend en lisant le quotidien francophone qu'Ali Abdallah Saleh avait un mentor, son nom Saddam Hussein, le dictateur irakien pendu en 2006. C'était une de ses sources d'inspiration, un vrai modèle. Au cours de sa longue carrière politique, Saleh aura surtout pratiqué l'art de la trahison et des alliances contre nature qui lui ont été fatales, souligne Al-Nahar.
Et puis Omar, et on aura largement l'occasion d'y revenir dans Un jour dans le monde, hein, tout le monde musulman est en ébullition à l'approche de la décision de Donald Trump qui pourrait reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël.
Oui, et c'est un autre grand titre dans la presse libanaise. Hein. Le monde arabe suspendu à la décision du président américain Al-Mustaqbal prévient. Cette décision pourrait provoquer un nouveau bain de sang dans ce Proche-Orient déjà martyrisé par des décennies de conflits. L'Orient le jour affirme que si Trump devait reconnaître Jérusalem capitale d'Israël et transférer l'ambassade des États-Unis dans la ville disputée, ce serait un vrai casus belli, une déclaration de guerre pour les Palestiniens, mais aussi pour leurs alliés dans la région, comme la Turquie, qui a averti que le statut de Jérusalem était une ligne rouge, évoquant une possible rupture diplomatique avec Israël si Washington devait reconnaître la ville sainte comme capitale de l'État hébreu.
Allez, merci beaucoup. Encore une fois, on aura vraiment l'occasion d'en reparler. Omar Waman, correspondant de France Inter à Beyrouth. Yeah.
Chicada, Chicada, Chicada Silva, a negra. Morava com a sua corte, cercada de belas mucamas, num castelo na chácara da palha, de arquitetura sólida e requintada, onde tinha até um lago artificial e uma luxuosa galera. E seu avô João Fernandes, o tratador, mandou fazer só para ela. Ai, ai, ai. Chicada, 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 Chicada Silva, negra.
Chicada, 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 Chicada Silva,
a negra. Muito rica e invejada, temida e odiada, pois com as suas perucas, cada uma de uma cor, joias, roupas exóticas, das Índias, Lisboa e Paris, a negra era obrigada a ser recebida como uma grande senhora da corte do rei Luís.
Da corte.
Bon, alors je vous le dis franchement, il y a gros gros débat en régie pour savoir si c'est Georges Eben ou Georges Aubin qui parle. En tout cas, le titre, ça j'en suis sûr, il date de 76, il s'appelle Chicada Silva. L'édito du journal Le Monde avec Christophe Ayat ce soir. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Et ce soir, vous allez nous parler du fantôme de la Zeralda. Mais qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un conte?
Et le fantôme de la Zeralda, oui Fabienne, ça pourrait être le titre d'un conte pour enfants, mais c'est plutôt le cauchemar que vivent les Algériens au jour le jour. La Zeralda, c'est la résidence du président algérien Abdelaziz Bouteflika, dans la grande banlieue d'Alger. Et la Zeralda est habitée par un fantôme. Depuis le début de son quatrième mandat, en 2014, le chef de l'État algérien n'a pas prononcé un seul discours, pas pris un seul bain de foule, pas donné une seule interview. La raison, c'est qu'il est gravement diminué par un accident vasculaire cérébral en 2013 qui l'a rendu muet. C'est pas une image, Fabienne. Il ne peut pas s'exprimer. Pas assez clairement en tout cas pour parler à ses concitoyens. D'ailleurs, il a mené campagne pour sa réélection sans jamais venir à aucun meeting. Imagine la scène des réunions publiques avec un portrait posé sur une estrade.
Et alors comment les Algériens, Christophe, vivent-ils cette situation?
Ben, ils ne la vivent pas très bien, mais ils la vivent comme ils peuvent, les Algériens, avec un mélange de résignation, de peur et d'humour. De la résignation parce que ça fait bien longtemps qu'ils savent, les Algériens, que les décisions au sommet de l'État ne sont pas de leur ressort. Depuis la répression des manifestations de 1988, puis l'annulation des élections en 92, ils ont compris. Ce sont les décideurs, cette mystérieuse caste d'officiers de politique qui choisissent qui dirige le pays. Seulement les décideurs, personne n'est capable d'en dresser aujourd'hui la liste, ni de savoir ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, et c'est ça qui fait le plus peur. Et la peur, justement. La peur depuis l'atroce guerre civile des années 1990 entre les islamistes et le pouvoir. Elle a causé 60 000 à 150 000 morts et toute une société vit aujourd'hui dans la hantise d'un retour à l'instabilité et à la violence. Et puis enfin la dérision. Parce que l'humour, cet humour corrosif et ravageur des Algériens, est ce qui aide à tenir, à calmer la peur, à défier l'absurdité de la situation. Un pays qui ne bouge plus, ne parle plus, n'avance plus, bref, un zombie.
Alors comment va être perçue la visite d'Emmanuel Macron, puisqu'il y est demain mercredi, dans ce contexte, on l'a compris, assez morose?
Ben imaginez Fabienne que Macron est presque vieux par rapport à la moyenne de la population algérienne. Alors parlons de Bouteflika, mais 70% en fait des 40 millions d'Algériens ont moins de 35 ans. Et ces jeunes, ils ont du talent dans les arts, dans les sciences, dans le sport. Pour eux, Bouteflika, qui a aujourd'hui 80 ans, c'est la préhistoire. Mais il ne faut pas oublier que ce même Bouteflika, à qui certains prédisent un cinquième mandat, je ne rigole pas, donc que Abdelaziz Bouteflika a été député et ministre à 25 ans seulement. C'était en 62, juste après l'indépendance. À l'époque, le président de la France avait 72 ans et c'était Charles de Gaulle. 6 ans plus tard, la jeunesse française faisait mai 68.
Comme quoi.
Eh oui, mais la jeunesse au pouvoir n'a jamais été une garantie de bonne gouvernance, Fabienne. Seulement, elle est un encouragement pour tous ceux qui ne se voient pas d'avenir alors qu'ils ne sont même pas encore adultes. Les dirigeants algériens feraient bien de se souvenir de la révolution dont ils sont les enfants et du vent de fraîcheur qu'elle avait apporté au monde entier à l'époque.
Christophe Payat du journal Le Monde, merci beaucoup. Le 18-20 continue avec le journal et puis le téléphone sonne.